Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Depuis que l'usage des caméras de surveillance s'est généralisé dans les hôpitaux, elles n'ont pas seulement mis en lumière les violences exercées à l'encontre des patients, mais également entre soignants. Certaines chaînes de télévision se sont d'ailleurs faites une spécialité de diffuser des images de ces caméras de surveillance. Dans un hôpital de Valparaiso, au Chili par exemple, on voit un médecin dans un couloir attraper une infirmière par les cheveux, la pousser contre une porte, puis lui donner un coup de pied dans l'estomac. On découvre alors que la jeune femme est enceinte. On ignore le motif de la querelle, mais c'est encore mieux, la violence est sans excuse. Dans un hôpital de la province du Hunan, en Chine, au bloc opératoire, un chirurgien jette brutalement ses gants au visage d'une infirmière, qui lui répond peu de temps après en lui donnant une claque. Heureusement, rien de tout cela chez nous, enfin pas pour l'instant. Il y a bien le plan santé d'Emmanuel Macron, mais concernant les infirmières et infirmiers, il prévoit plutôt d'élargir leurs compétences. Certaines ou certains pourront désormais prolonger des ordonnances et réaliser des soins plus techniques. Une nouvelle profession verra également le jour. Ça s'appelle IPA, infirmier ou infirmière en pratique avancée. En gros, des super soignants qui pourront prescrire des médicaments et réaliser des actes jusqu'ici réservés aux médecins. Les IPA feront 2 ans d'études en plus, mais la question de leur rémunération n'est pas encore réglée. C'est un point d'inquiétude, écrit le Figaro, le début d'une angoisse. Tout de suite donc, dans Les Pieds sur Terre, 2 récits de Rémi Dibowski-Douatte avec une archive.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, je suis infirmière depuis 14 ans. J'ai commencé à travailler en maternité avec les mamans qui venaient d'accoucher. Voilà, au bout d'un an, je suis passée aux urgences maternité gynécologique parce que j'avais envie que ça bouge un peu plus, d'apprendre davantage aussi. Et j'ai fait un peu plus de 3 ans là-bas et puis après, j'ai voulu évoluer dans mon métier. J'ai postulé pour la réanimation chirurgicale cardiaque, où j'y suis restée un peu plus de 5 ans. J'étais quand même assez étonnée d'y passer autant de temps, mais quand même bien fatiguée. Je commençais à avoir plus trop de patience envers les gens. Et au fur et à mesure, je dormais de moins en moins. Je faisais du 8h midi en fin de course. Donc voilà, j'ai voulu faire un break de quelques mois. Et j'ai fait d'autres choses. J'ai pris l'air, j'ai voyagé. Ça m'a fait du bien. Mais au final, j'ai quand même eu envie de retourner à l'hôpital, de remettre des sabots, remettre une blouse et puis allez hop. Et du coup, j'ai postulé pour un poste en salle de réveil. La cadre supérieure qui m'a rencontrée, en fait, au vu de mon parcours, on m'a dit non, toi tu vas t'ennuyer en salle de réveil de nuit et m'a proposé un poste aux urgences. Et voilà, donc la première année se passe plutôt bien. J'ai un peu de mal avec le rythme qui est quand même assez soutenu. Il faut savoir que dans ces urgences-là, au maximum de ce que j'ai pu voir, on arrive facilement à plus de 300 passages par jour. Il faut les encaisser, hein. Surtout qu'en fait, on n'est pas toujours en nombre pour pouvoir gérer le service comme on devrait. Et puis un jour, on a eu un patient, un SDF qui était amené par les pompiers, qui a été jugé par l'infirmière de tri dans un état qui nécessitait d'être mis en tri 1, qui est le tri le plus élevé, qui signifie qu'il y a un risque vital. Elle le met en salle de déchocage. Donc là, tout de suite, on lui fait les premiers soins. Le médecin arrive et puis au fur et à mesure, le patient se stabilise. Et du coup, vu le peu de place qu'on a dans ce secteur de tri 1, en fait, on peut prendre 3 patients correctement, mais bon, au fur et à mesure de la journée, des types de patients qu'on a, parfois, comme il n'y a pas de place ailleurs, on les met dans cette zone-là parce qu'on ne laisse pas les patients dans les couloirs. Et parfois, on est à 4, 5 patients dans cette salle de déchocage. Donc après, il faut faire des choix sur qui c'est qu'on sort du déchocage. Et le médecin a décidé de sortir ce patient du déchocage. Comme il était valide, on l'a assis. Parce qu'il faut savoir qu'on a une zone dédiée pour les personnes qui doivent rester couchés. Et une zone où les gens peuvent être assis sur des fauteuils. Comme le patient était stabilisé, qu'il pouvait marcher, ben on l'a assis sur nos habitudes et après avoir pris l'avis du médecin. Et en fait, moi, ce jour-là, j'étais en poste, ce qu'on appelle l'infirmière des dossiers, qui est une infirmière en fait qui chapeaute le passage des patients dans tous les autres services de l'hôpital, qui gère les commandes des ambulances, qui gère la prise de constante des patients. Et donc moi, je me revois en fait ce jour-là avec mes tas de dossiers dans les mains et en passant devant ce patient en me disant mais lui, il faudrait qu'on l'allonge. Et il était tout recroquevillé comme ça sur son fauteuil. Bon, on a quand même que deux bras et deux jambes. Et plusieurs personnes passent et en fait, on m'a dit oui, ce patient-là, il faudrait qu'on le recouche. J'ai dit oui, mais enfin là, je peux pas. Après, j'étais pas la seule à prendre cette décision. En fait, on était plusieurs à se dire qu'il fallait recoucher ce patient, que là, en fait, il avait pas la tête de quelqu'un qui devait rester assis. Mais bon, pour pouvoir l'allonger, il fallait qu'on fasse une place dans la zone allongée, qu'on n'avait pas forcément. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Le point final de tout ça, c'est qu'une de mes collègues qui est à l'accueil ce jour-là, en fait, en passant devant lui, elle aussi est interpellée par le fait que bah, il a pas l'air bien, ce patient. Sauf qu'elle, elle prend le temps, qu'on est plusieurs à ne pas avoir pris, elle prend le temps d'aller lui parler à ce patient et en fait constate qu'il n'a plus de pouls, qu'il est en arrêt cardiaque et que, bah oui, effectivement, il n'était pas bien ce patient. Donc on a essayé de le réanimer, mais sans y parvenir, quoi. J'avais honte d'avoir su ce que j'aurais dû faire. Et de ne pas avoir pris le temps de le faire. J'ai eu honte de moi, j'ai eu honte de mes collègues, de nous tous, parce qu'on est tous passés devant ce patient, en fait, à se dire qu'il fallait qu'on le recouche. Mais on ne l'a pas fait. Parce que voilà, j'avais 3-4 patients à aller voir en même temps, qu'il fallait que je commande des ambulances, que j'appelle les brancardiers, que j'appelle le labo pour savoir si le résultat a été bien tombé, pour un patient qu'on n'attendait que ça pour le faire sortir et libérer une place. Que voilà, il faut passer des antibiotiques à un tel, l'autre patient qui est à côté, il a mal, il faut trouver le médecin, lui faire prescrire un antalgique, et qu'en fait, je suis pas Shiva, et que on est toujours en flux tendu en termes de nombre de soignants, et qu'au final, nous, on empathie parce qu'on est stressé, parce qu'on n'arrive pas à tout gérer, parce qu'on peut pas se dupliquer, parce qu'on arrive à la fin, on n'en peut plus. C'est comme quand on passe dans un couloir, en fait, les box de soins sont alignés dans les uns derrière les autres. Il y a le lave-bassin qui est tout au bout du couloir. Et moi, je me suis déjà vue avec un patient en salle de déchocage qui avait envie de faire pipi, devoir courir chercher cette urinale tout au fond du couloir, sachant que derrière ça, il fallait que je lui passe des antibiotiques, qu'il fallait que je lui passe des antalgiques, que j'avais un autre trien qui était annoncé. Donc du coup, il fallait que je réapplique vite fait en salle de déchocage. Et en fait, sur le chemin, comme ça, jusqu'à l'urinal, entendre des patients dans les box me faire « Mademoiselle, mademoiselle !» Et en fait, juste, j'ai pas le temps. Et je faisais comme si j'avais pas entendu. Je me dis « Bah, j'y passerai plus tard. » Sauf que parfois, on se retrouve une demi-heure à arriver dans le box avec une personne qui nous a dit « Bah, en fait, j'ai fait sur moi. » Et ça, c'est pas normal. C'est une sorte de maltraitance passive. Même si on n'est pas maltraitant, on n'est pas bien traitant. À ce moment-là, je me suis dit que c'était pas comme ça que je me voyais en tant que soignante, que c'était pas ça le métier d'infirmière, qu'en fait c'était notre travail de pouvoir être là pour chaque patient et de pas avoir à choisir entre un tel ou un tel. Quelque part, dans ces moments-là, quand on n'a pas le temps de faire les choses correctement, moi j'ai une image de moi-même qui est pas très agréable à assumer. C'est pas la soignante que je veux être. Au fur et à mesure, semaine après semaine, on a un cas dur par jour, un deuxième cas dur. On finit la semaine avec la tête pleine de cas un peu compliqués ou des soins qu'on aurait aimé avoir le temps de finaliser. Parce que découvrir des escarres chez des personnes qui sont restées plusieurs heures allongées, bah, c'est pas drôle. C'est des personnes qu'on aurait aimé mettre sur des vraies lits, c'est des personnes qu'on aurait aimé avoir le temps de changer plus souvent. Je me suis dit, oh là là, c'est pas... Enfin, moi, je veux pas continuer comme ça, en fait. Je me dis, si là, j'en suis là à 35 ans, en fait, il va se passer quoi dans 10 ans? parce que là, ça me touche encore de ne pas réussir à faire les choses comme je voudrais les faire, mais moi j'ai peur de tomber dans le normal, de me dire que bah j'ai pas le temps d'aller mettre le bassin à la dame du 3. Ok, c'est normal. Bah non, en fait ça l'est pas. On devrait avoir le temps de le faire, on devrait avoir la patience de faire les choses, de pas envoyer se faire voir les gens parce qu'ils nous demandent 15 trucs en même temps et qu'en fait bah on peut pas faire 15 trucs en même temps, mais au final on a plus la patience d'eux parce que on est fatigué. Parce qu'on n'est pas assez, parce qu'on manque de matériel. Moi, je sais qu'une fois, je me suis retrouvée à devoir aller chercher de l'autre côté du service un thermomètre pour me rendre compte qu'en fait, des collègues étaient en train de réanimer un patient. En gros, c'était trois infirmières. Bah, c'était les trois qui étaient mobilisées pour réanimer quelqu'un. Et puis, bah, le reste du service, il se passe quoi, en fait? Normalement, on devrait être plus que ça. Et s'il se passait quelque chose à côté, eh ben, il n'y avait personne. Après 5 ans et demi de réanimation, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir deux patients qui s'arrêtent en même temps. Donc, on fait comment? Moi, à mon nez, j'ai dit non. Les gens autour de moi ont commencé à me dire que j'étais pas bien, que j'étais fatiguée. Mon compagnon, en fait, me l'a dit. Que j'étais en train de me dégrader, même moi, au niveau de ma santé. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à prendre du recul et à me dire qu'effectivement, bah oui, j'aime ce que je fais. Être infirmière, c'est quelque chose dont je suis fière, mais que ça ne doit pas non plus me ronger, en fait. Que les difficultés qu'on rencontre ne doivent pas devenir déterminantes sur ce que je suis, sur comment je vis. Et que... avoir les insomnies, pleurer pour un oui, pour un non, crier sur la famille des patients parce qu'on n'arrive pas à communiquer de façon calme, c'était plus possible. C'est tout ça qui fait que je me suis dit stop et j'ai décidé de quitter l'hôpital complètement. Je suis partie de l'hôpital, mais on va pas dire que je suis partie avec le cœur léger. Ouais. En fait, sur le coup, cette décision, je me suis dit, c'est moi qui la prends. C'est pour mon bien, je claque la porte et on verra plus tard. Mais je l'ai subie. C'est une décision que j'ai été obligée de prendre. Moi, j'aime mon métier, j'aime soigner, j'aime faire rire les personnes âgées parce que bah, ils sont dans nos lits comme ça, ils subissent aussi tout ce qui se passe. Et moi, je trouve ça génial, en fait, quand on arrive à rire avec eux. J'aime découvrir des gens qui arrivent aux urgences parce que bah ils sont touristes et du coup leur demander d'où ils viennent et un peu voyager avec eux. J'aime le côté technique de mon métier, essayer de trouver la veine en situation d'urgence parce qu'il faut absolument qu'on passe les médicaments. J'aime remettre au propre quelqu'un qui s'est fait pipi dessus parce que oui, c'est aussi un soin et c'est un soin très intime et en même temps on a la satisfaction de rendre la dignité à quelqu'un en fait et j'aime ces moments qu'on a avec nos patients et la complicité qu'on peut avoir dans une équipe avec des soignants soudés parce que même si on galère, et bon, on est tous là les uns pour les autres. Et j'aime apprendre auprès des médecins, auprès des collègues. Mais par contre, j'aime pas subir le manque d'effectifs, j'aime pas subir le fait de courir après du matériel. J'aime pas me retrouver en situation d'incompétence ou en situation d'échec en fait parce qu'on n'est pas assez. Je peux plus, j'y arriverai plus. Moi, je sais que c'est une accumulation de situations, de prises en charge sur lesquelles je me suis pas trouvée à la hauteur, sur lesquelles je nous ai pas trouvé à la hauteur, parce que c'est aussi le fonctionnement du système qui fait que même en ayant toute la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas, quoi.
De la France réclame de ses enfants, a dit le général de Gaulle, de longs efforts. La santé de tous est une des conditions du travail et du dynamisme nécessaire pour le relèvement du pays. Les infirmières qui, par vocation et par profession, se sont faites les ouvrières de la santé, mesurent maintenant plus que jamais l'ampleur et l'urgence de leur tâche. Hélas, elles sont trop peu nombreuses. Le public connaît-il l'angoissant problème de la pénurie d'infirmières qui est partout posée? Les hôpitaux ont dû fermer faute de personnel. Réorganiser et revaloriser la profession est chose faisable depuis la loi du 14 juillet 1943. L'accès de cette carrière ne sera ouvert que par l'obtention du diplôme d'État. La France pourra enfin connaître et apprécier les femmes qui, unissant une des vocations les plus hautes à une technique impeccable, réaliseront dans la carrière d'infirmière la mission dont chaque être souffrant a besoin. Grâce à la loi du 14 juillet 1943, nous ne verrons plus de ces caricatures, infirmières d'opérette minaudant voile au vent sur des boucles folles, ou matrones sanglées dans un uniforme fantaisiste, cachant une noire ignorance. Il faudra également que les conditions de vie des véritables infirmières subissent dans bien des cas des transformations radicales. Il ne doit plus être question d'entendre dans les cliniques parler de pourboire quand il s'agit du traitement de l'infirmière. C'était permis quand on avait le droit d'engager n'importe qui au chevet du malade et de lui mettre un voile sur la tête. Mais ce sont là des abus dont nous ne voulons plus, que nous sommes fermement décidés à faire supprimer. On a trop souvent pensé qu'une belle vocation tenait lieu de tout, et qu'elle payait le loyer, le déjeuner et les souliers. On a longtemps oublié que celle à qui l'on demande jusqu'à 72 heures de travail par semaine a une mère, un père, qu'elle aimerait pouvoir coudre une robe pour sa filleule, conduire de temps à autre ses neveux en promenade, qu'elle voudrait bien elle aussi pouvoir lire un beau livre, entendre une conférence, bref, qu'elle a droit, en plus du dévouement à ses malades, à avoir une vie familiale et intellectuelle. Ces détentes sont d'autant plus nécessaires à son équilibre que la lutte est plus âpre contre la douleur et la mort.
Je m'appelle Raphaël Jean-Louis, je suis infirmière depuis 3 ans et j'ai 30 ans. Ma mère est infirmière depuis des années, elle est actuellement à la retraite, mais elle a toujours été dans ce milieu médical. Donc j'ai été un petit peu prédestinée à devenir infirmière et c'est une vocation quelque part et j'ai été motivée pour le devenir, donc rien n'allait m'empêcher de le devenir. En 2011, je suis rentrée dans l'école d'infirmière. J'avais vraiment l'envie, j'avais soif d'apprendre autant en cours qu'en pratique. Surtout que moi, je viens de loin, hein, j'ai fait un CAP, on ne m'a pas promis un avenir extraordinaire et pourtant je me suis battue jusque-là et je suis fière de m'être battue jusque-là. Et là, je me retrouve face à un problème qui pourrait m'empêcher de devenir infirmière, quoi. J'étais face à un mur. Je me suis dit, là, ça va être une épreuve difficile. Comment je vais pouvoir aborder cette épreuve ? Il faut savoir qu'à ce stade-là, je suis à environ 4 mois du diplôme. Le mémoire est pratiquement terminé. Donc là, l'enjeu de ce stage, c'est qu'à la fin, on est noté, on a des commentaires. Et c'est grâce à ces stages-là aussi qu'on valide la formation et qu'on arrive jusqu'au diplôme. Ça doit bien se passer, quoi. Et arrive ce fameux jour où je me présente. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Jean-Louis, je suis étudiante de 3e année. Donc je commence mon stage aujourd'hui. Je suis super fière d'être en 3e année, je suis heureuse. Et là, toute l'équipe est face à moi, me regarde pour la plupart, mais pas un mot. On me répond pas. Donc je me dis, bon, on m'a pas entendu, donc je recommence, toute motivée, avec le sourire, etc. Une nouvelle fois, on me regarde, on me dit rien. Et là, une soignante qui est présente dans la pièce me dit, mais vous vous êtes présentée ? Alors je dis, bah, je viens de me présenter 2 fois devant vous. Non, tu t'es pas présentée ? Je me dis, ne dis rien Raphaël, tu es noté à la fin. Là, tu as 4 mois du diplôme, c'est toi. Ok, excusez-moi, je suis Raphaël Jean-Louis, étudiante de 3e année. J'ai 10 semaines de stage, qu'est-ce qui va se passer en fait ? Donc je commence un pansement avec une infirmière, donc la patiente a quand même une partie des fesses un peu dévoilée, et je suis avec l'infirmière qui m'encadre, et tout d'un coup, bah, contre toute attente. Déjà que c'est intimidant de faire un pansement devant une infirmière qui nous observe. Voilà, il faut vraiment qu'on montre nos preuves. Une soignante de plus rentre dans la pièce, s'installe. Une deuxième se met contre un mur. Une troisième. Et ça s'enchaîne. Il y en a plusieurs qui rentrent dans la pièce, qui se mettent autour du lit et qui me regardent. Là, je comprends qu'en fait, elles sont là pour moi et pour me déstabiliser. Je suis quelqu'un de très débrouillarde, j'ai envie d'y arriver. Donc je me dis, je vais aller au bout de mon pansement et elles ne vont pas m'intimider. Donc je commence le pansement, sauf que la situation fait que l'infirmière me demande de faire quelque chose qui n'est pas dans les règles d'asepsie. Elle me demande de mettre le pansement souillé de sang dans le sac plastique noir. Or, on a toujours appris, étudiants, que ça se mettait dans le sac jaune à dasserie parce qu'après, c'est incinéré, on doit respecter le protocole. Gentiment, je lui dis que non, je peux pas, puisque ça va mettre dans le sac plastique jaune. Et elle m'oblige, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit tu le mets dans le sac plastique noir. Donc là, je perds mes moyens en fait. Je dis moi j'ai pas appris comme ça. Et je me dis est-ce que je me tais et je me range, mais en même temps j'ai pas envie de me ranger parce que j'ai appris à le faire comme ça. Donc je reste bornée quelque part et je me dis non, j'ai une nouvelle fois. Et là elle commence à me crier dessus et elle me dit écoute, moi je t'ai demandé de le mettre dans le noir, tu le mets dans le noir et c'est comme ça, c'est dans le noir. Donc là je sens que ça prend une ampleur, ça monte, je le mets dans le noir. Et je suis anéantie à ce moment-là. Je mets la patiente en sécurité, je monte la barrière, je descends le lit et je rétorque. Écoutez, on est assez de soignantes autour du lit pour faire le pansement, donc moi, je vous laisse, je sors de la pièce, excusez-moi madame. Sauf qu'à ce moment-là, une soignante, au moment où je veux sortir de la chambre, me barre la route avec son bras et me dit « tu finis le pansement ». Et là, une nouvelle fois, je suis encore dans une situation où je me dis « c'est pas possible, je suis en train de rêver, c'est un cauchemar ». Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Je pousse un petit peu le bras de la soignante, je sors et la soignante se met à sortir de la pièce, à me courir après. Et là, je sens que ça commence à monter, hein, à monter, à monter. Et là, je me retrouve face au cadre et j'explique au cadre que la soignante veut que je mette le pansement dans sa plastique noire. Donc elle se retrouve un peu bête et le cadre me donne raison. Et là, je me dis, mon Dieu, j'aurais dû me taire parce qu'à ce moment-là, mon cauchemar, il va devenir un réel cauchemar. Ça me met en émotion. C'était dur. Ça va être de pire en pire. Donc c'est une étudiante de 17 ans qui va vouloir me confier quelque chose, un secret. Et elle me dit, écoute, j'ai vraiment beaucoup de mal à le dire. Alors je lui dis, dis-moi, écoute, on est entre étudiants, on va s'aider, c'est déjà ça au moins. Et elle me dit, écoute, l'aide-soignante de l'après-midi, donc à savoir que l'aide-soignante était seule pour tout le service, il manquait encore du personnel à ce moment-là. L'étudiante me dit, toute la journée, elle m'a en fait jeté de l'eau souillée sur le visage en me disant de faire plus vite. Alors là, quand une jeune fille de 17 ans vous dit ça, j'avais l'impression d'avoir la responsabilité de faire quelque chose et là, c'est là où je me suis dit, il faut que j'en parle au cadre. Les soignants sont en souffrance dans ce service, c'est pas normal ce qui se passe. Et arrive ce jour où l'infirmière me demande d'aller faire un électrocardiogramme à une patiente. Je m'applique, j'y vais. La patiente est étrangère, donc il y a son fils pour traduire. Je demande au fils de traduire à sa maman qu'il ne faut pas bouger durant l'électrocardiogramme, parce que sinon ça fausse les résultats. Donc tout est prêt. Et au moment où j'appuie sur le bouton, la dame se met à parler à son fils et à bouger. Donc forcément, l'électrocardiogramme est faussé. Et là, entre la fameuse infirmière, comme d'habitude, sans frapper, c'est une habitude dans ce service, elle entre de manière violente dans la chambre. On est tous surpris. Et là, elle me dit, alors, cet électrocardiogramme, il est prêt? Je lui dis, non, celui-ci, il est faux, puisque la patiente, elle vient de bouger. Donc, j'ai réexpliqué au fils de dire à sa maman de absolument pas bouger durant le CG. Et elle me dit, non, mais ça fera l'affaire. Elle prend le résultat. Et je lui dis, mais non, mais le résultat est faux, puisqu'elle vient de bouger. Et elle s'en va de la pièce. Et là, je suis en train de faire le bon, du coup, qui est en train de sortir. Et là, je sens qu'elle manigance quelque chose. Donc, je prends le bon résultat. Je sors de la chambre. Je m'excuse auprès du patient. Je me mets à courir dans le couloir jusqu'à arriver vers elle. J'arrive dans la pièce. Et là, elle était en train de se pavaner avec le CG qui était faux. Et elle le montrait à tous les médecins, des internes, les aides-soignantes, les agents qui étaient présents dans la pièce, et ils se mettaient tous à rire et elle disait voilà, elle a fait un ECG en troisième année, elle sait pas le faire. Et là, je lui dis pourquoi tu fais ça? Et elle me dit tu viens de faire le ECG, tu m'as dit qu'il était bon. Et là, je lui dis tu mens en plus. Là, aujourd'hui, je dis stop, c'est fini, vous n'allez plus avoir de pouvoir sur moi. Et donc, je m'en vais pour aller rejoindre les patients et elle me suit dans le couloir et elle me dit « Mais tu te prends pour qui ?» Et là, je lui rétorque « Mais je me prends pour une étudiante qui n'arrête pas de se faire humilier chaque jour, d'ailleurs tous les étudiants, et j'en ai marre en fait, je me révolte aujourd'hui. » Et là, l'infirmière me dit « Mais tu n'as pas vécu le quart de ce qu'on a vécu nous en stage ?» Dégage de cette pièce, je te dis dégage, mais vraiment elle me crie dessus, mais elle hurle devant tout le monde, les patients, la famille qui était présente, et je suis complètement déboussolée, je sors de la pièce et vraiment les larmes sortent, je me dis là je n'en peux plus, et j'ai une pensée où je me dis pourquoi en fait, pourquoi elles sont comme ça. Je suis face à des soignantes qui sont tout simplement stressées et dépassées par leur métier. Même moi en tant qu'étudiante, je me dis à ce moment là mais c'est ce que je vais vivre peut-être. Après le diplôme, il y a un enjeu public, il y a un enjeu énorme en fait. Dans quelques mois, je vais être confrontée à ça. C'est moi qui aura toutes les responsabilités en tant qu'infirmière et les conditions vont peut-être me transformer. Alors aujourd'hui, je suis enfin devenue infirmière diplômée d'État. Ça fait 3 ans que j'exerce mon métier. Seulement, j'ai réalisé qu'en fait, ce stage n'était pas du tout une exception. Et que la violence, les brimades, les humiliations, avec mes collègues aides-soignants également, agents, on le voit tous les jours. Mais pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, pas assez d'argent, pas assez de moyens, pas assez d'effectifs personnels. Donc un personnel épuisé pour trop de charges de travail. Tant que ça, c'est pas réglé, le problème ne sera jamais résolu.
Infirmière à cœur ouvert, c'était un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Raphaël et à Audrey. Merci également à Lina pour son archive. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Camille Richir, c'est notre stagiaire. Why should she make amends for all the things that I have done? À 15h sur France Culture, la compagnie des auteurs, c'est avec Mathieu Garrigou-Lagrange, mais dans quelques instants, Tiphaine de Rocchini vous présente Entendez-vous l'écho.